Oui.
Au niveau de cette neutralité de l'État de laquelle il parle, est-ce que ceux qui soutiennent ce discours, ils sont conscients de la... s'il y a quand même une contradiction, non, d'une neutralité, de notre côté, on voit dans les États où le mariage homosexuel est passé, où il y a une promotion presque, non, de l'homosexualité ou de cette façon de vivre. C'est pas du tout compatible avec le moment de neutralité. Et puis, deuxième question, cette guérilla, cette guerre, elle commence. Ouais. Qu'est-ce qui a vraiment déclenché? C'est vraiment cette façon cette sentiment de discrimination d'un groupuscule d'intellectuels homosexuels ou féministes. Qu'est-ce qui a vraiment déclenché cette avalanche qui tombe dessus maintenant?
Alors, sur la neutralité, la neutralité de l'État, elle peut très bien aller de pair avec des politiques de sensibilisation qui sont, on pourrait dire, déléguées à des ONG ou à des associations qui, elles, sont directement au service de la promotion de l'homosexualité, par exemple. Donc ça c'est une première réponse possible. Mais même dans ce cas-là, on peut néanmoins continuer à garder le mot neutralité parce que finalement, l'absence de neutralité, ce serait si par exemple l'État déterminait, bon, ce qui est évidemment un peu bizarre, mais déterminerait que désormais un homme et une femme peuvent plus se marier, par exemple. L'interdiction du mariage entre un homme et une femme. Mais à partir du moment où vous gardez l'idée de l'ouverture du mariage civil aux personnes de même sexe, ça, évidemment, ça n'empêche pas la formule antérieure. Donc en fait, l'aspect de neutralité ici, formellement, est gardé, puisqu'il s'agit simplement d'ouvrir plus de possibilités que celles qui existent aujourd'hui.
On ne devrait pas plutôt parler alors d'une indifférence
Ah si,
de
si.
l'État, du fait de
Oui,
vous faites
oui,
ce que vous
oui.
voulez, quoi.
Oui, bah exactement. Neutralité ici, ça veut dire, comme je disais au début par rapport au phénomène religieux, l'État n'est plus compétent pour dire quelle est la vraie religion. C'est aux citoyens de déterminer en conscience ce qui leur paraît être la vraie religion. Bah là, c'est pareil. L'État n'a plus à promouvoir une conception de la sexualité dans un sens ou dans l'autre. L'État est simplement là pour garantir le minimum de l'ordre public, c'est-à-dire la liberté. La qualité du consentement libre d'adulte, à partir de là, une fois que l'État a garanti ce cadre formel, tout le reste ne le concerne pas. Voyez? Or, la grande force rhétorique du texte de Borrillo, c'est qu'en fait, Borrillo s'appuie sur déjà des choses qui ont été actées dans la tête des gens, pour montrer qu'il y a encore toutes sortes de résidus de l'ancien modèle encore aujourd'hui. En fait, les résidus de l'ancien modèle encore aujourd'hui, c'est finalement tout ce qui reste lié à la conception qu'on voit par exemple chez Portalis dans le Code civil, la soi-disant conception sacrée de la sexualité, qui évidemment n'a pas été totalement supprimée du jour au lendemain, il reste quelques lambeaux. Vous voyez? Par exemple, la prohibition de la prostitution, enfin, en tout cas dans le cas français, dans d'autres pays, c'est possible. Bon. Et Borrillo, ici, a beau jeu de jouer la cohérence en disant bah alors, qu'est-ce que c'est que ces restes-là? C'est pas normal, il faut aller jusqu'au bout de la logique. Et en disant ça, il a le mérite d'une certaine cohérence. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous avez sauté tel ou tel verrou, bah, il n'y a pas de raison de s'arrêter en chemin. Oui. Donc en fait, et derrière ça, évidemment, le contraire de sacré, c'est profane. Donc un des objectifs essentiels de cette conception pour Borrillo, c'est de profaner la sexualité. C'est-à-dire que la sexualité est un domaine de la vie humaine qui est totalement manipulable par les individus et qui... comment dire, n'a pas de dignité propre qu'il faudrait respecter. Le seul modèle ici, c'est le consentement.
Et le, mais le bout de cette logique, il peut être encore beaucoup plus long. Genre en Suisse, on parle de dépénaliser l'inceste. Entre deux personnes adultes consentantes.
Ah oui, oui, oui. Oui, oui, sur cette logique, oui, bien sûr. Toi qui sois adulte. Non, non, mais effectivement, à partir de ce moment-là, tout à fait, bien sûr. Ah oui, ça c'est on peut très, on peut. Le seul tabou qui demeure, renforcé d'autant plus, c'est encore une fois la différence d'âge. Mais à part celui-là, il y a plus de véritablement de. Oui. Parce que. Telle manière que certains, par exemple, certaines féministes radicales, par exemple, critiquent l'accentuation de la dépénalisation en cas de viol, en disant le viol est à pénaliser en tant que violence, ça c'est sûr, et non consentant, bien sûr, mais le caractère d'aggravation du caractère sexuel du viol est encore un reste d'une vision sacralisée de la sexualité. Donc le viol doit être puni en tant même que violence, mais si vous rajoutez une peine parce que c'est un viol, vous continuez à légitimer une conception sacralisante de la sexualité. Donc le viol est interdit parce qu'il y a non-consentement et parce qu'il y a violence. Mais, et ça c'est très important, hein, l'idée ici qu'il y a quelque chose d'encore plus grave, ça touche l'intégrité, et que derrière l'intégrité sexuelle, il y a une dimension de la personne qui est particulièrement offensée et blessée, ça reste une conception sacrée. Donc la seule pénalisation du viol, c'est la pénalisation de la violence. Il y a des gens qui militent pour ça. Avec exactement selon les mêmes principes, que la prostitution doit être autorisée, non pas les réseaux de prostitution qui profitent des femmes en les instrumentalisant, une sorte d'esclavage. Mais à partir du moment... Et justement, l'idée derrière ça, il y a l'idée que s'il y avait un vrai statut, un métier avec des sécurité sociale, caisse de retraite pour la prostitution, bah justement, ça ferait tomber les réseaux et ce serait une petite entreprise d'auto-entrepreneur et puis qui serait déclarée comme un plombier ou n'importe quoi d'autre et puis tout irait très bien. Et c'est ça, la profanation de la sexualité, au sens fort du mot, hein. Profaner, c'est rendre profane ce qui était jusqu'alors sacré. Et c'est très cohérent, il y a une vraie cohérence là. Et cette cohérence, à partir du moment où vous avez validé tel ou tel principe, si vous vous arrêtez en chemin, ce qui est tout à fait possible, en disant « Ah non, non, mais c'est quand même pas possible d'aller jusque-là », on aura beau jeu de vous dire « Mais alors, pourquoi tu veux pas aller plus loin ?» Tu vas pas plus loin parce que tu es soumis encore à des préjugés lié à ton éducation, mais c'est pas fondé. Et de fait, ça sera pas vraiment fondé. Sauf qu'il y aura une sorte de reste de bon sens ou de lien à l'expérience qui nous fera dire « Non, c'est quand même un peu gênant ». Mais il y aura plus de possibilité d'articuler parce que les principes auront déjà été court-circuités en amont. C'est pour ça que là, c'est des questions qui touchent les principes. Et notre enjeu ici, c'est d'essayer de revenir aux principes. Et leur enjeu, c'est toujours de se concentrer sur l'exception, parce que l'exception, rhétoriquement, elle est souvent suffisamment forte pour être validée. Une fois que vous avez validé l'exception, vous avez déjà dynamité le principe. Une fois que vous avez dynamité le principe, la brèche est ouverte, et le reste sera validé au fur et à mesure. C'est une question d'habitude et de disposition et de... Oui. Et ça sera toujours, toujours le même processus. On concentre la puissance médiatique sur une exception insupportable. L'exception fait sauter le barrage. Donc, à partir du moment où vous avez accepté une exception, bah, vous ne pouvez plus soutenir un principe, parce qu'un principe, par définition, n'a pas d'exception. Donc, le principe perd son statut de principe. Une fois que vous avez perdu le statut du principe, bah, il n'y a plus de raison d'interdire quelque chose sous ce rapport-là. Oui. D'où l'importance de la revalorisation du crime de la pédophilie qui là apparaît comme justement le principe, même si certains groupuscules justement, dire adulte consentant, quel est l'âge suffisant de maturité sexuelle, etc. Donc là, après, il peut y avoir toutes sortes de débats sur l'âge de la majorité sexuelle. Mais après, sur le principe en lui-même, finalement, d'une immaturité de consentement, ça paraît assez évident. Mais justement, il y a une sorte de concentration sur ça, parce que là, justement, manifestement, l'exception n'est pas possible. Vous voyez ? Et ça, il faut arriver à le décrypter, parce que sinon, on perd non seulement la cohérence interne, mais on ne voit plus dans la réalité à quel point c'est inscrit dans cette dimension humaine. Mais ça, on va en reparler.